et pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission consacrée aux villes durables. Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans des villes. D'ici 2050, 2,5 milliards de personnes supplémentaires devraient vivre dans des zones urbaines. Cette croissance sera particulièrement forte en Asie et en Afrique où la majorité de la population vit encore dans le monde rural. Il y a donc urgence aujourd'hui à imaginer des villes durables, intelligentes, soucieuses de la protection de l'environnement, porteuse d'emploi et de la mixité sociale. C'est en tout cas le pari de Jean-François Caron, notre invité d'aujourd'hui, maire de Losangoël, une commune de 7000 habitants située dans le département du Nord-Pas-de-Calais et qui a pris le virage du développement durable dans les années 2000. Jean-François Caron, bonjour.
Bonjour.
Losangoël, donc, qui se situe juste à côté de Lens et qui est un des principaux bassins miniers français. Votre région a donc été touchée de plein fouet par la fermeture des mines de charbon dans les années 80. Et quand vous avez été élu maire, une première fois en 2001, quels étaient finalement pour vous et pour vos concitoyens les défis à relever à ce moment-là? Dans quel état, si j'ose dire, était votre territoire?
Alors, ce qui caractérise Los au départ, on a 9 puits de mine sur la commune et pour donner un ordre de grandeur des séquelles qu'on doit affronter, le sol de la commune a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers, les rivières coulent en sens inverse, les maisons se fracturent et d'une certaine manière, on est complètement une caricature de développement non durable. Les hommes mouraient à 50 ans de la silicose, on a détruit la qualité de l'eau, donc on avait des problèmes économiques, des problèmes sociaux avec l'arrêt du charbon, c'était là aussi la perte des emplois. Et donc c'est l'addition de ces problèmes économiques, sociaux, environnementaux qui fait que je me trouvais en tant que maire devoir faire face sur tous les fronts. Et finalement, c'est comme ça que s'est dégagé le projet de ville autour d'une réflexion sur notre plan d'urbanisme. Quelle ville veut-on quand ce qui nous a constitué s'est complètement arrêté, un peu comme au Far West où on a laissé les villes à l'abandon. Et là, nous, ça concerne 1 million d'habitants. On n'allait pas transférer toutes ces personnes-là, je ne sais où d'ailleurs. Et donc, on s'est projeté comme ça progressivement vers l'idée, on est un exemple de non durable. Qu'est-ce que ça voudrait dire être une ville durable ?
Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une petite visite guidée imaginaire de Losangoël pour les auditeurs qui n'auront peut-être pas l'occasion de venir jusqu'à vous? En quoi, quand on arrive dans votre ville, on comprend qu'on est dans une ville différente des autres?
Alors, je vais vous décevoir, mais souvent les gens disent, mais finalement, on dirait presque que c'est comme ailleurs. C'est-à-dire que les gens, c'est des gens comme ailleurs. Alors souvent, on nous dit quand même, il y a beaucoup plus de nature, de végétation, de fleurs. Mais j'ai envie de dire, si vous venez dans la commune, d'abord, je vais vous emmener sur notre ceinture verte. Et on va faire le tour des quartiers par l'extérieur de la ville. Et on va longer des fruitiers qui sont des espèces qui disparaissent de la région, qu'on a gardées génétiquement dans un conservatoire. Et nous, on les replante en pleine terre. Et derrière ça, il y a du trafic autour de cette ceinture. Non pas du trafic de stupéfiants, mais du trafic de confiture. Puisqu'en fait, on a des fruits en accès gratuit. Et quand on
donc
fait...
Donc on peut aller à la cueillette le dimanche,
voilà,
famille.
Et quand on fait 10 pots de confiture, et ben on en offre à ses voisins qui vous offrent autre chose. Et derrière cet exemple-là, il y a de la nature, il y a du vivre ensemble.
La biodiversité s'est développée avec cette ceinture verte à Losangoël.
Alors ce qui est très intéressant, c'est comme on a un CPIE, c'est-à-dire une structure à caractère scientifique, quoi, finalement, sur le territoire de la commune, qui s'appelle la chaîne des terris. On a fait des mesures sur les oiseaux qu'on a équipés de mini-balises Argos, et on observe que les oiseaux reconquièrent la ville en passant par les corridors biologiques, les trames vertes qu'on a restituées. Et donc, aujourd'hui, on revoit, par exemple, du pic vert en plein centre de la ville. On a aussi, aujourd'hui, à peu près 70 hectares en culture bio. 5 agriculteurs ont basculé leur production, ce qui veut dire qu'on est à peu près à 10% de notre surface agricole utile en bio. Bien ça aussi, ce sont des endroits où il n'y a pas de pesticides, où on retrouve de la faune et de la flore, et où on est là en ce moment en train de travailler avec l'agglomération pour alimenter toutes les cantines de nos 36 communes à partir de production locale. Donc là, on retrouve un autre versant économique, c'est la concrétisation de circuits courts. Qui préfère manger un aliment qui a été stocké 3 semaines dans les frigos de la communauté européenne avec plein d'édulcorants et de colorants dessus. Personne, tout le monde, s'il le peut, va préférer manger un légume de proximité. Mais pour ça, il y a tout un travail à connecter les intendants des collèges qui s'occupent de la cantine, les agriculteurs, les intermédiaires. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, à l'échelle de la ville, on peut attraper des questions comme ça. On peut faire du bio, bien sûr, partout, mais de là à arriver à déclencher dans le territoire un mouvement de fond pour que les consommateurs y viennent, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que par rapport à la ville d'Ithaca, c'est intéressant, ce sont pas des agriculteurs hippies, hein, c'est des gens qui étaient en grande culture.
Donc vous faites référence au reportage aux États-Unis qu'on a entendu en première partie de l'émission.
Voilà, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces agriculteurs venant du conventionnel disent, mais moi je préfère diversifier mes marchés, avoir de la vente locale, de la vente directe, et finalement c'est financièrement plus intéressant que de me trouver dans les mains des grands distributeurs ou des raisonnements de la PAC, la politique agricole commune. Et puis eux-mêmes disent, mais moi, si je peux gagner ma vie, je préfère le faire sans polluer les nappes phréatiques et répandre des produits dans l'atmosphère.
Alors si on poursuit notre visite guidée, on arrive devant votre église.
Alors l'église, évidemment, c'est un petit caillou blanc extrêmement symbolique, puisque ça a été en son temps la première église de France en toiture solaire, qui finalement produit de l'électricité qui va servir potentiellement aux ménages autour.
Alors vous alimentez quoi avec les panneaux solaires qui sont sur le toit de l'église?
Alors on sait que sur l'église, on a, je crois que c'est une vingtaine de ménages, équivalents ménages produits. On a une centrale solaire qui est aussi une centrale de recherche, et on travaille actuellement beaucoup dans l'esprit de la Troisième Révolution industrielle, puisque quand j'étais conseiller régional, je m'occupais de cette question-là à la région.
Vous parlez de la troisième, vous faites référence à Jérémy Rifkin.
À Jérémy Rifkin, voilà, qui est un bon ami et qui est venu à Los voir concrètement comment ça faisait système. Donc cet exemple sur cette centrale solaire, actuellement, on est en train de tester le stockage avec des éoliennes, des mini-éoliennes, puisque une des difficultés des énergies renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas constantes. Et donc, on est à la pointe là, des actions, des innovations sur le stockage d'énergie. Je pense que c'est une des clés, c'est qu'on a en même temps de la recherche de très haut niveau, et en même temps, on le décline dans la vie de tous les jours dans la ville. Et c'est ça qui rend appropriable, finalement, le développement durable. Sinon, c'est quelque chose qui est dans les mains des chercheurs ou des passionnés, des gens qui sont un peu en marge de la société. Ça, je ne critique pas, j'en fais partie. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher la population classique, j'ai envie de dire, qui plus est chez nous, qui est pauvre, c'est que des familles d'anciens mineurs. Donc c'est intéressant de montrer que ça crée de l'adhésion. On fait tout avec une participation intense, participation qui implique, c'est-à-dire pas seulement demander aux gens ce qu'ils veulent, mais regarder comment on peut responsabiliser. Il y a un enjeu de révéler, de faire de la pédagogie, pédagogie sur les espèces animales qui reviennent, sur les kilowatts et les tonnes de CO2 économisées, sur la qualité des légumes, ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir une pensée de l'appropriation du développement durable. Sinon, ça reste une addition de contraintes, alors que moi, je pense que le développement durable, ça doit être du désir. Pierre Radan, qui est un ancien président de l'ADEME, qui avait une formule que je trouve vraiment excellentissime, il dit il va falloir commencer à aimer le 21e siècle. Or aujourd'hui, on est encore toujours dans le rétroviseur, en regardant le monde d'hier. Alors on espère la croissance d'hier, mais cette croissance-là, un, elle a creusé des inégalités, et deux, on voit qu'elle n'est pas durable du point de vue des ressources de la planète. Donc aimer le 21e siècle, se mettre en projection positive, ça veut dire non pas s'interdire de faire des choses, parce que là on est dans la morale, mais c'est de dire, mais c'est joyeux de produire sa propre énergie, c'est joyeux d'aider les agriculteurs de sa rue à gagner leur vie. Enfin, il y a beaucoup de bon sens là-dedans, finalement.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies, et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça. Hot town, summer in the city. Back to my neck, getting dirty and pretty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half dead. Walking on the sidewalk, hotter than a match head. Be all right, and baby, don't you know it's a pity the day.
it's a different world. Find me a girl.
Come on, come, come on.
We'll dance all night.
Come on, come on.
It'll be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Les villes durables à travers le monde, c'est notre sujet d'aujourd'hui. On en parle avec Jean-François Caron, maire de Losangoël, commune du Nord-Pas-de-Calais, qui s'est convertie au développement durable dans les années 2000 et qui est devenue une véritable ville pilote vivante. Jean-François Caron, vous avez été réélu pour la troisième fois en 2014 avec 100% des suffrages, donc maire de Losangoël, à 15 km à peine de la ville d'Hénin-Beaumont et de son maire Front National. Un plébiscite qui témoigne d'une véritable reconnaissance de vos concitoyens avec qui vous avez travaillé, comme vous l'avez expliqué un peu plus tôt, en concertation pendant vos deux précédents mandats. Alors, il faut préciser que 60% des habitants de Losangoël sont aujourd'hui non imposables. Du coup, ce que je voulais vous demander, c'est cette transition écologique que vous avez opérée, combien ça coûte ?
Alors, on fait partie des communes les plus pauvres de France, les communes minières en général et celles de Los en particulier. Si on y arrive, c'est donc que c'est pas une affaire d'argent. Le développement durable, ça peut coûter plus cher. Si par exemple, vous doublez l'isolation d'une maison, ben oui, vous payez deux fois le prix de l'isolant. Ça peut coûter le même prix qu'une construction classique, si je prends l'exemple des maisons. Si vous orientez votre maison au sud plutôt qu'au nord, c'est le même tarif. Et pourtant, la performance avec le solaire passif qui rentre dans les maisons est bien meilleure. Et puis, par exemple, si vous infiltrez les eaux, ce qu'on fait, on récupère toutes les eaux. On n'a pas besoin
les eaux de pluie.
On n'a pas besoin de surdimensionner les stations d'épuration. Les tuyaux d'assainissement et même on fait de l'économie puisqu'on consomme plus d'eau potable ou encore quand on fait de la gestion différenciée des espaces verts, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas systématiquement toutes les semaines tous les hectares d'espaces verts de la ville. Il y a des endroits où on fait une fauche une fois par an par exemple. Ça coûte moins cher en heures de service technique, moins cher en tondeuse, moins cher en essence. Donc il n'y a pas de règle pour dire que le développement durable c'est plus cher ou c'est moins cher. Ça va dépendre des choix qu'on fait. Après, nous, ce qui est intéressant, c'est que comme on a une dimension un peu pionnière, on bénéficie d'une attention particulière et c'est plus facile d'aller chercher des financements. Parce que, quelque part, on teste, on expérimente. Et l'ADEME, par exemple, l'agence d'État qui gère les questions environnementales. Et on a conventionné avec elle un statut particulier de démonstrateur national de conduite du changement vers le développement durable. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans le cas de l'église, comme on a eu un peu d'aide, finalement, ça nous coûte moins cher de faire l'église en solaire que si on l'avait fait avec des ardoises classiques. Il y a, dans le budget de la ville, une capacité à aller chercher des financements intéressante parce que on est en pointe. Et pour les habitants de Los, ça compte. Moi, j'ai pas envie que la ville durable, elle se fasse sur le porte-monnaie des habitants, comme si c'était un luxe. Au contraire, on a inauguré il y a très peu de temps une résidence. Ça faisait 4 jours qu'il gelait et il a bien fait froid ces derniers jours. Et un journaliste pose une question à une habitante. Et combien ça vous coûte de chauffage? Et l'habitante dit, écoutez, j'ai pas encore allumé mon chauffage. Et quand vous avez des maisons...
Parce que sa maison est suffisamment bien isolée.
Parce que sa maison est très bien isolée. Et quand vous avez des maisons chauffées à l'électrique et qui fuitent partout, où les gens payent 2000 euros par an, et qu'à côté, vous avez des gens qui disent « moi, je n'ai pas encore allumé mon chauffage », et ça, pour les gens, c'est très concret. Parce que on évite de rejeter du carbone dans l'atmosphère, de gaspiller des ressources naturelles. En plus, on fait de l'emploi local, puisque là, on était vraiment sur des logiques d'éco-matériaux. Et c'est extrêmement bon pour le porte-monnaie. C'est comme si ça vous fait 150 euros de plus par mois sur votre fiche de paye, puisque vous payez plus le chauffage. Donc là, on est vraiment sur des exemples où on se rend compte que c'est un changement de modèle, qu'il est possible de jouer sur la transformation de l'environnement, il est possible de créer des nouveaux emplois et de redonner de l'activité à tout le monde, et il est possible de lutter contre les inégalités sociales.
Vous êtes devenu, en tout cas, on l'a bien compris, un modèle à suivre, inventé par les médias, les hommes politiques. Vous avez d'ailleurs reçu la visite de Cécile Duflot, Nicolas Hulot et Jérémy Rifkin. Et vous êtes très sollicité par des conférences un peu partout en France et en Europe. Est-ce que, Jean-François Caron, on peut vraiment dupliquer aujourd'hui votre modèle ?
Alors, refaire exactement la même chose, c'est pas possible, parce que chaque territoire, il a ses spécificités. Nous, on a une énergie humaine, si on peut dire, qui est l'énergie au départ de la désespérance. Il fallait se sortir du trou.
Vous n'aviez pas le choix.
Voilà, on n'avait pas le choix. Ceci dit, à Hénin Beaumont, c'est pas vraiment la stratégie qu'ils ont prise, et donc c'est pas automatique que quand on est en difficulté, on va vers ces choix-là. Mais ça, c'est, on a un peu l'épée dans les reins, si vous voulez. Donc ça, c'est extrêmement particulier à Loos. Par contre, l'implication des habitants pour coproduire la ville, c'est possible partout. La généralisation de l'économie d'énergie et des énergies renouvelables, c'est possible partout. Le développement dans toute la France et notamment dans les, dans, autour des grandes villes d'une agriculture qui permet de nourrir la ville en circuit court, c'est possible partout. La récupération des eaux dans tous les bâtiments, c'est possible partout. Enfin, j'ai beau chercher, je ne vois pas de raison majeure qui empêcherait le changement d'échelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, avec l'ADEME, toujours, un peu avec la Caisse des dépôts et d'autres partenaires, on est en train de regarder ce que nous, on appelle les cellules souches d'un nouveau modèle de développement. Cellules souches, en biologie, c'est à un moment donné, il y a une cellule qui mute, c'est des cellules de réparation qui se régénèrent et qui se multiplient. Eh bien, on est en train de regarder à quel endroit en France il y a des cellules souches. Par exemple, Mouans-Sartou, dans le sud de la France, c'est un très bel exemple aussi. Grande-Synthe, à côté de Dunkerque, il y a quelques...
Ils sont demandeurs ? Ils vous demandent
sûr,
votre
bien
avis ?
Bien sûr, on travaille ensemble, on élabore un réseau de ces territoires qui, encore une fois, s'attaque à la question de manière globale et pas seulement par une entrée qui serait celle de l'énergie. Et on va regarder, avec l'ADEME, quels sont les ressorts de la réussite dans ces villes. Pourquoi ça marche ? Alors, par exemple, moi j'ai un avis là-dessus, bien sûr, mais par exemple, l'implication des habitants, c'est central. Si vous amenez beaucoup de millions et de la technologie, vous faites des résultats, mais il n'y a pas forcément d'adhésion. Voilà, c'est un exemple. Autre exemple, nous, on s'est beaucoup appuyé sur notre identité d'hier, du monde de la mine. C'est pour ça qu'on a porté le dossier d'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité. Parce qu'il n'était pas question de nous renier. Pourtant, on a contribué au réchauffement climatique. Le charbon, pendant un siècle et demi, ça a relargué du carbone dans l'atmosphère. Mais on ne va pas se renier, c'était l'époque qui était comme ça. Simplement, aujourd'hui, on change d'époque. Et le fait que c'est un des enjeux de la résilience, hein, que Boris Cyrulnik, le grand psychiatre, a bien décrit, c'est cette capacité à rebondir après un choc, ça ne veut pas dire se renier. Eh bien ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces villes, un travail sur la mémoire et l'identité locale. Voilà. Et comme ça, on travaille à essayer de donner un, je reste dans la biologie, un ADN qui pourrait permettre de dire, ben voilà, ces conditions-là, elles sont requises si on veut enclencher une transformation à plus grande échelle.
Et sur le continent africain, l'urbanisation aussi est grandissante. Et pourtant, c'est dans le monde rural que se développent de plus en plus les écovillages. Rien qu'au Sénégal, on en compte 413 depuis 2009. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Mamadou Barry, directeur général de l'ANEV, l'Agence nationale des écovillages du Sénégal. Bonjour Mamadou Barry.
Oui, bonjour.
Alors, comment se passe la transition d'un village traditionnel à un éco-village au Sénégal ?
La transformation d'un village ne se fait pas en une seule année. Il s'agit de réduire l'impact écologique à travers la concertation et la mise en place de nouvelles pratiques de subsistance. On met des périmètres écologiques pour permettre aux femmes de faire des maraîchages avec des pompes solaires pour l'eau. Nous mettons dans cet éco-village aussi une boulangerie. Nous allons mettre en même temps des boutiques énergétiques pour permettre à des villages qui n'ont pas accès à l'électricité d'avoir une télévision afin d'avoir accès à l'information, d'avoir un frigo pour permettre de garder des aliments périssables. L'ANEF aussi met en place des poulaillers où les jeunes peuvent travailler et vendre ses volailles à travers les différents hôtels qui sont dans le Sénégal. Le revenu que vont tirer les femmes et les hommes de ce village, qu'ils vont mettre à la disposition du comité villageois, ce sont ces revenus-là qui leur permettront maintenant de financer leurs activités.
Que vous disent les gens, que vous disent les villageois, comment leur vie a changé en devenant des éco-villageois ?
C'est-à-dire ces villages qui ne parvenaient pas à assurer les 3 repas par jour, les assurent aujourd'hui à travers les activités qu'elles sont en train de faire, la population-là. Nous nous battons en même temps pour combattre l'immigration des jeunes et pour combattre la pauvreté en milieu rural. Permettre à ces jeunes, au lieu d'aller quitter le village pour aller en ville, pour chercher de quoi nourrir ceux qui sont restés au village, ou bien aller à l'étranger. Ils ont des activités qui leur permettent de ne pas aller en exil, en somme, aller à l'exode. Et autre chose aussi, ça leur permet de respecter l'environnement. Vous remarquerez qu'il y a plus de jeunes que dans des villages traditionnels, où on ne retrouve que des vieux et des personnes âgées, plus ou moins.
Quelles sont aujourd'hui les difficultés pour la mise en œuvre de ces villages? Qu'est-ce qui freine un village à passer le cap?
Et surtout, les difficultés de mise en œuvre sont essentiellement d'ordre financier. C'est la même, l'Agence nationale des écovillages, avec l'appui de l'État qui essaye de financer ces structures. En dehors de la faiblesse des ressources dont nous disposons, cependant, pour atténuer cette difficulté, l'ANEV noue la plupart du temps des partenariats avec différents acteurs, au rang desquels il y a des partenaires techniques et financiers classiques, mais également le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de mettre 100 écovillages par an, puisque aujourd'hui, il y a une forte demande.
Est-ce que le Sénégal aujourd'hui est précurseur dans la sous-région de ces écovillages?
Oui, pas plus tard qu'en 2015, le Togo était venu voir ce que nous faisions. L'année dernière, au mois de juin, le ministère de l'Environnement du Burkina Faso avait envoyé les techniciens et les directeurs du changement climatique où ils ont eu à passer une semaine à Dakar avec nous et ils ont salué le modèle sénégalais. Et ils ont commencé d'ailleurs à voir ce qu'ils peuvent faire et ils vont nous inviter pour que sur place, nous, on leur apporte encore notre expertise.
Merci Mamadou Barry.
Merci madame.
Jean-François Caron, vous qui êtes maire de Losangoël, est-ce que vous vous retrouvez dans le fonctionnement et les objectifs de ces écovillages au Sénégal?
Bien sûr, on retrouve les fondamentaux. On part des habitants, on est sur des choses très concrètes, très pratiques, l'alimentation par exemple, l'entretien de l'espace rural, aussi une chose importante qui a été dite autour des partenariats à mettre en place, c'est-à-dire on ne décrète pas ces transformations-là. Donc oui, je me retrouve complètement, mais là aussi, pour revenir à votre question d'avant, chaque situation est unique et si vous êtes une station balnéaire le long du littoral ou en pleine montagne, ou à Paris ou à Losangoël, ce n'est pas vraiment les mêmes univers. Tout n'est pas écrit et à construire les réponses en avançant avec les habitants et avec les acteurs. Et le développement durable a besoin de ça. Ce n'est pas de la technologie, le développement durable.
Comment ce mouvement des villes durables va réussir à passer du local au global?
Quand on a une expérience, on en tire les leçons, on regarde si ça fonctionne et ensuite on peut généraliser. Dans l'exemple de la réhabilitation des bâtiments ou de l'éco-construction, je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est une de nos places fortes. On est actuellement en train de travailler avec les logements miniers, avec la société Maison et Cité qui s'occupe de ces logements miniers. On a deux grosses expérimentations où on a réhabilité une ancienne maison d'ingénieur, donc 300 mètres carrés, qu'avec des éco-matériaux. Et on a travaillé avec l'université, on l'a bardé de capteurs, on mesure l'humidité, la performance énergétique, le vieillissement de l'isolant, etc. Et on a du coup une idée extrêmement précise des résultats qu'on peut obtenir et de ce que ça coûte. Et bien pour Maison et Cité, derrière, c'est 60 000 logements miniers qu'on va pouvoir transformer et éviter que ça continue à être des passoires énergétiques. Donc là, typiquement, une innovation développée à petite échelle, elle va pouvoir se déployer à beaucoup plus grande échelle. Un autre exemple, c'est la récupération des eaux et l'infiltration des eaux. Quand on a démarré ça à Losangoël, c'était dans les années 2000, c'était une désobéissance au modèle. Et aujourd'hui, dans notre agglo, c'est généralisé. D'ailleurs, notre communauté d'agglomération de Lens-Liévin est en train d'enclencher sur son projet de territoire une amplification de tout ce que je viens de dire là, en souhaitant être un démonstrateur de résilience à l'échelle européenne. On a l'arrivée du Louvre qui est venu s'installer à Lens. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de, déjà maintenant, de l'embrayage, du changement d'échelle. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Après,
quels sont les freins qu'il va falloir dépasser?
face de nous, on a la publicité qui continue à nous promettre l'accumulation, enfin, parce que vous achetez telle chose, alors vous serez heureux, quoi. Bon, on a aussi la difficulté, comme ça a été dit là au Sénégal, c'est qu'il faut un peu de temps pour avoir des résultats. On ne règle pas ces affaires-là par un coup marketing, quoi. C'est pas vrai. Donc, il faut de la stabilité politique. Mais je pense que c'est absolument irréversible et que dans les 10 années qui viennent, si on est encore là dans 10 ans, on verra, mais ce serait bien de se retrouver ici et de regarder. Mais je suis sûr qu'on est au tout début d'une explosion de ce genre de démarche, explosion au sens positif. Hein. On ne peut pas continuer sur le modèle hier. Regardez là les problèmes de pollution atmosphérique, les problèmes de santé publique que ça pose, etc. Vous allez dans les Alpes, il y a des vallées entières, on ne peut plus se déplacer. On est à la fin de ce modèle-là.
Merci Jean-François Caron pour votre participation et je conclue en vous citant, puisque le modèle de votre méthodologie, ce sont des petits cailloux aux étoiles, une étoile pour faire rêver et donner envie, des petits cailloux pour se mettre en mouvement et baliser le chemin. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. On se retrouve demain pour parler de la pêche en eau profonde en Europe et de la pêche illégale en Afrique de l'Ouest. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain. Même planète, même heure.